Aujourd'hui débutent les états généraux de bioéthique à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique. Du 18 janvier au 7 juillet prochain, médecins, experts, associations et citoyens sont appelés à débattre sur des sujets aussi vastes que la PMA, la GPA, la recherche des origines ou encore la fin de vie et le don d'organes en vue d'une révision des lois de bioéthique prévues pour l'automne prochain. Bonjour Irène Théry. Bonjour. Vous êtes sociologue du droit, spécialiste des questions de la famille, auteur notamment de Marie et filiation pour tous. On va essayer de montrer les enjeux, en quelque sorte, de ces discussions avec, au centre de tout cela, l'enfant, la natalité française, un vaste problème. On en parlait déjà en 1946. Écoutez les actualités de l'époque.
Il faut à la France une politique de la population. Il faut à la France des enfants qui rient et qui jouent, des enfants qui seront demain des travailleurs et des gardiens, qu'on y prenne garde. La grandeur est encore souvent fonction du nombre.
Une politique de la population, en a-t-on une aujourd'hui, Irène Théry?
On a tout à fait une politique de la population. La preuve, c'est que effectivement, on essaye de favoriser les familles nombreuses. Mm-hmm. Un exemple très simple, les allocations familiales, on ne vous les donne pas pour le premier enfant. On vous les donne à partir du deuxième et elles augmentent beaucoup à partir du troisième. Vous voyez, donc il y a à travers ce simple exemple une certaine représentation de ce que la façon dont l'État veut influencer la famille. Nous sommes nombreux à dire que cette question pourrait être discutée.
Pourquoi
les allocations familiales ne commencent-elles pas avec le premier enfant?
Et lorsque l'on voit donc les choix qui sont faits, est-ce que l'on peut dire que ces choix ont évolué? On va parler évidemment de la PMA, de la GPA qui constituent le cœur de ce projet de loi sur la bioéthique, mais au-delà de ça, Irène Théry.
Non, je pense qu'il y a eu des évolutions sur la politique familiale. Alors la politique familiale, elle se fait par deux voies, hein, autour du droit civil, hein, la façon dont on organise la filiation, le mariage, le divorce, et puis autour en fait de la politique des aides financières à la famille. Donc là, il y a eu des évolutions des deux côtés. Côté des aides financières, je pense qu'il y a davantage, et c'est un progrès, de prise en compte des inégalités sociales. La famille, c'est un berceau, on peut dire, d'inégalités sociales, et de plus en plus les systèmes d'aide tiennent compte de ces conditions de ressources, comme on dit. Ça, c'est un progrès, une inflexion très nette. Et puis du côté du droit civil, eh bien, depuis les années 70, ce qu'on a fait, c'est qu'on a abandonné, on va dire, le modèle du code Napoléon, qui était, on définit le bon modèle de famille, on favorise ce qui va dans ce sens, on punit ce qui va dans d'autres sens, au profit d'une autre conception du droit qui n'est pas du tout un abandon des valeurs communes, du bien commun, mais qui l'organise autrement, en définissant des références, mais qui peuvent être transcendantes, on va dire, aux configurations familiales.
Alors justement, qu'étaient ces mauvaises familles, Irène Théry?
Les familles non mariées, c'était les familles monoparentales, etc. Même les familles adoptives, d'une certaine façon, parce que on les a longtemps cachées, par exemple.
Est-ce que l'on peut considérer, finalement, justement, dans l'évolution que vous êtes en train de décrire, qu'il y a l'abandon de la notion de mauvaise famille, parce que la modernité, elle se définit notamment par le fait que l'on n'a plus de définition du bien. On considère que c'est à chacun d'avoir sa propre définition du bien et donc sa propre définition de la bonne famille. Est-ce que ça, c'est une règle qui peut servir en quelque sorte de logique historique?
Non, moi je ne crois pas que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je crois que on a abandonné des conceptions traditionnelles des valeurs, ce modèle de famille que le droit aurait la charge de promouvoir et de défendre, au profit de nouvelles valeurs et d'autres conceptions du droit, mais pas de moins de valeurs. Je prends un exemple, l'attachement à l'identité narrative de l'enfant, le fait qu'on doit à l'enfant de ne pas manipuler son histoire, de lui donner accès à ses origines, un sujet dont on va parler, eh bien ça, ce sont des valeurs qui n'ont cessé de progresser, qui n'étaient pas des valeurs fortes autrefois. Donc, il y a la filiation comme un lien inconditionnel et indissoluble, qui doit se perdurer quoi qu'il arrive, même si on se sépare. Et bien ça, c'est une valeur qui a monté à partir des années 80. Donc, ça n'est pas les valeurs ou l'individu, c'est des valeurs traditionnelles contre des valeurs plus contemporaines, je dirais.
Alors, dans ce cas-là, il est normal que ceux qui aujourd'hui défendent les valeurs dites traditionnelles, ce que vous appelez les valeurs traditionnelles, Irène Théry, soient effectivement hostiles à ces évolutions.
Moi, je ne suis pas du tout étonnée qu'ils soient hostiles. Ils ont tout à fait légitimement le droit d'exposer leur souhait, finalement, que nous revenions davantage du côté du modèle du code Napoléon. Hein. La manif pour tous, pour ne pas la nommer, ça portait des cocardes. Beaucoup de gens se sont dit, pourquoi est-ce qu'ils portaient des cocardes dans les manifs au moment du mariage pour tous? C'était en référence non pas à la République spécialement, mais au droit civil du code Napoléon. C'est-à-dire avant les réformes des années 70, les réformes de Giscard, les réformes de Pompidou, les réformes de la droite libérale qui ont remis en cause au fond ce modèle avec les lois sur l'IVG, le divorce par consentement mutuel, l'égalité des enfants naturels et légitimes, toute une évolution du droit qui se poursuit encore aujourd'hui.
Pourquoi faut-il justement de nouvelles lois de bioéthique? Parce qu'on a l'impression que depuis le débat sur le mariage pour tous, on n'arrête pas d'avoir des sujets autour de la bioéthique. Qu'est-ce qui reste encore à réglementer en France, Irène Théry?
Alors, peut-être pour comprendre l'enjeu de ces états généraux, il faut rappeler que la situation française est très particulière. Ces lois de bioéthique, donc, elles ont été établies en 1994, à peu près 20 ans après le début de cette nouvelle donne de la PMA, si vous voulez. Les premiers SECOS, les centres d'études et de conservation du sperme, c'est les années 70, 73 précisément, donc, pendant longtemps, comme les autres pays, finalement, on laisse nos médecins, nos cliniciens, nos chercheurs avancer et inventer. Ils se donnent une déontologie, mais la loi ne s'en mêle pas spécialement. Et puis, à un moment, on dit non, il nous faut des lois bioéthiques. Et là, c'est vrai que on élabore quelque chose qui est très rigide et sur lequel on pourrait discuter. Parce que, d'abord, ces lois bioéthiques, elles ont un principe, c'est que tout ce qui n'est pas expressément permis est interdit.
Par exemple ?
Donc, eh bien, par exemple, une innovation technologique arrive. Mais, par exemple, il s'est arrivé récemment, la vitrification des ovocytes. Ça permet une bien meilleure conservation des ovocytes. C'est une nouvelle technique de congélation, si on veut. Eh bien, comme elle n'est pas expressément permise, elle est interdite. Vous voyez, c'est une inversion des principes fondamentaux du droit, quand même. Le principe fondamental du droit, c'est tout ce qui n'est pas expressément interdit est permis. Donc, cette rigidité, elle a bloqué la recherche, elle a bloqué les cliniciens. Ça n'est pas pour, et c'est pour rien que 130 médecins se sont manifestés par une pétition il y a quelques mois contre cette rigidité.
Alors vous dites justement que ces lois de bioéthique, elles étaient le siège d'une inversion des principes traditionnels du droit. Pourquoi y a-t-il en quelque sorte une législation d'exception sur ces questions-là?
Je crois que c'est qu'on a peur justement de ne pas maîtriser les évolutions technologiques. Il y a toujours un peu ce syndrome-là de faire sortir de ces techniques un monstre.
Une forme de panique morale.
Oui. Oui, je pense qu'on peut employer ce terme précis. Et quand on regarde d'ailleurs aujourd'hui la rhétorique des opposants à l'évolution, parce que la contrepartie de cette rigidité, c'est qu'on doit rénover les lois de bioéthique tous les 7 ans. Donc c'est ça qui va se passer maintenant. Et donc les opposants nous parlent déjà d'un individu post-humain, c'est les termes de l'avenir pour tous, le mouvement de Frigide Barjot, nous parle déjà du triomphe du marché, de la technique, ont toute une rhétorique qui est en place pour diviser, pour accuser, pour affoler.
Il n'y a pas que Frigide Barjot qui s'oppose à un marché des êtres humains.
Non, moi aussi.
Donc... Il y a quoi ça à ce sujet? Pourquoi tous les 7 ans?
Non, c'est ce qui a été énoncé. C'est tout ça, c'est un peu une rigidité française. C'est vrai que d'autres pays sont plus pragmatiques. Ils ont aussi des lois, mais elles évoluent de façon plus souple, quelquefois plus réactive. C'est aussi ce qui fait qu'on est souvent un peu en retard par rapport à nos voisins. Voilà, donc c'est comme ça. Peut-être on pourrait le rediscuter. En tout cas, le moment est venu, justement, de faire le point. Après tout, le président de la République a décidé qu'il voulait un débat long et apaisé. les termes peuvent paraître contradictoires. Hein. On craint qu'un débat long, ça soit justement l'occasion pour les opposants à toute évolution de se manifester, de peser sur la sérénité des débats. Mais mettons-le à profit, puisque ce temps est long, pour une fois, faire le point généralement, pas seulement point par point, mais avoir une vision d'ensemble. Je pense que le moment est venu d'un adjournamento, on peut dire, de notre modèle bioéthique. C'est le moment.
Si on fait un peu de comparaison internationale, Irène Théry, que dire justement de ces spécificités françaises?
C'est très simple. Dès que vous quittez la France, on vous dit « mais qu'est-ce que vous avez en France ?» Mais pourquoi en France, on n'accepte rien ? Pourquoi en France les femmes ne peuvent pas congeler leurs ovocytes? Pourquoi en France les lesbiennes et les femmes seules n'ont pas droit à la PMA? Pourquoi en France vous considérez que la GPA éthique est inenvisageable? Comme on nous l'a dit sur le mariage pour tous, pourquoi en France de telles manifestations? Donc le problème...
Je vous pose la question, pourquoi en France alors?
Le problème, il est très simple, il y a maintenant un écart qui s'est creusé entre le pays réel, qui est un pays vivant, qui est un pays jeune, qui est un pays qui change. Sondage après sondage, on voit que le pays veut que ça change, en particulier sur la PMA, sur la bioéthique, sur la famille en général. Mmh. Et une classe politique... des institutions, qui sont plus âgées. J'ai rien contre les vieux, je suis personnellement une grand-mère, hein, mais plus âgée, plus traditionnelle, qui a des formes de raisonnement plus coincées, je dirais. Et cet écart, maintenant, pose vraiment problème, parce que quand on parle de bioéthique, on parle de jeunes qui sont en âge de faire des enfants. Donc, attention, c'est l'autre génération qui devrait être davantage écoutée.
Mais on a entendu également un certain nombre de règles selon lesquelles il y aurait un socle anthropologique à protéger. Il faudrait en quelque sorte que la loi freine un certain nombre de mouvements de la société et puis aussi dire, par exemple, qu'il ne faut pas fataliser la demande sociale. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que les individus veulent un certain nombre de choses et bien que la loi doit en quelque sorte s'aligner sur ces demandes.
Non, mais toutes ces préoccupations doivent être entendues, bien entendues. Hein. Justement, que les gens s'inquiètent d'évolution irréfléchie, tout à fait. Donc, il faut prendre le temps, et c'est ça l'enjeu de ces discussions qui vont s'ouvrir, de répondre à ces inquiétudes. Ce que moi, je veux faire remarquer simplement, c'est qu'il existe maintenant toute une rhétorique, et elle est vraiment en place, qui est faite pour empêcher ce débat apaisé que nous souhaitons. C'est une rhétorique qui est faite pour diviser, pour affoler, diviser par exemple en dramatisant la rupture que serait l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, je pense. Mais dire que le simple fait d'ouvrir aux couples de femmes une technique, l'engendrement avec don, qui existe depuis un demi-siècle, que ça va ouvrir vers le post-humain, là il y a quelque chose qui n'est pas raisonnable. Donc, dramatiser la rupture, disqualifier ceux qui veulent des changements, hein, ce serait les Français d'aujourd'hui seraient des individualistes qui considèrent les enfants comme des biens de consommation. On lit tout ça, hein, des biens de consommation. Les homosexuels voudraient des animaux de compagnie. On a lu ça. Hein. Donc attention à toute cette rhétorique qui est faite pour diviser, dramatiser et diaboliser tout ce qui se fait autour de nous. On est en France, mais on circule dans le monde. On va aux États-Unis, on va au Canada, on va en Angleterre, on va en Belgique, on va en Espagne. Bon, qu'on ne raconte pas que partout ailleurs, c'est la transhumanité. Ça n'est pas sérieux. Ces pays ont des protocoles éthiques remarquables dont nous avons beaucoup à apprendre.
Ce que l'on dit, ou en tout cas ce que l'on entend chez les adversaires de ces évolutions en termes de bioéthique, Irène Théry, c'est qu'il y a un certain nombre de modèles anthropologiques qui doivent être préservés. Par exemple, la présence du père. Par exemple, le fait que la famille et que le désir d'enfant est un désir qui ne trouve pas nécessairement à s'assouvir. Vous pensez que c'est là aussi l'organisation d'une panique morale ?
Ce que je pense, c'est que tout est fait pour diviser la France en deux. Et que je pense qu'il ne faut pas jouer ce jeu-là. C'est-à-dire, je ne considère pas que la Manif pour tous, ou ces secteurs-là, représentent tous ceux qui se posent des questions. Par exemple, je pense qu'il y a des personnes qui se posent des questions sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, mais qui n'étaient pas opposants au mariage pour tous. hein, ou à l'adoption par les couples de même sexe. Donc n'érigeons pas finalement des secteurs qui sont très traditionnalistes, très minoritaires, en représentant de la France qui se pose des questions. Il y a des personnes de centre droit, par exemple, ou du centre ou de gauche, qui se posent des questions. Et donc, le débat n'est pas de France. Il n'oppose pas de France.
Bien souvent, il y a un argument qui est invoqué contre ces évolutions. Cet argument, c'est celui que l'on peut qualifier de pente glissante. C'est-à-dire que si l'on laisse un certain nombre d'aménagements dans le domaine donc, de la famille, eh bien, on va aboutir à un certain nombre de dérives. Les dérives que vous avez nommées, par exemple. Alors, cela va donc de la disparition du père à des questions telles que la transformation de l'enfant en bien de consommation. Qu'avez-vous à répondre à ces critiques,
alors,
Irène Théry ?
Il y a deux choses. Il y a d'une part une rhétorique purement décliniste, c'est-à-dire tous les changements sociaux sont perçus et annoncés comme autant de déclins. Et puis il y a une autre question plus précise et plus intéressante qui est la façon dont on fait de la politique. Est-ce que quand on fait une réforme, l'air de rien, on en fait entrer une autre par la fenêtre ? Alors, au moment du mariage pour tous, je l'ai dit, et nous sommes très nombreux à l'avoir dit, dès lors que le pays change son système de filiation de façon à permettre qu'un enfant puisse avoir deux pères ou puisse avoir deux mères et qu'il ouvre l'adoption au couple de même sexe, par cela même, en fait, nous allons vers le fait d'ouvrir la PMA. Parce que ce serait une discrimination. Donc, nous l'avons dit et redit. Ça n'a pas été caché. Laissez-moi terminer, Guillaume, s'il vous plaît. En revanche, et donc il y a une sorte d'automaticité, c'est-à-dire si vous dites l'adoption oui, la PMA non, vous discriminez. En revanche, par exemple sur la GPA, il y a zéro automaticité. Vous ouvrez la PMA, il n'y a aucune automaticité, la GPA est interdite pour tout le monde, elle sera autorisée peut-être un jour dans très 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 longtemps si les Français sont pour. Donc ne confondons pas les deux questions.
Mais alors finalement, lorsqu'il y avait eu les débats sur le PACS, puisqu'on peut dire que les premières évolutions, elles remontent au PACS, lorsqu'on s'est dit finalement que ce contrat, c'était un contrat utile, mais que finalement il ne résolvait pas la question donc de la filiation, il ne résolvait pas la question véritable qui était posée finalement par le couple homosexuel, même si le PACS est aussi utilisé par des couples hétérosexuels, on avait un peu raison quand même de parler de pente glissante.
On n'avait absolument pas raison, je veux prendre mon propre exemple. Parce que moi, je n'ai pas honte de rappeler qu'au moment du PACS, je me suis battue avec Robert Badinter pour qu'on inscrive dans la loi le couple de même sexe. Nous pensions que c'était l'enjeu majeur, c'était de changer notre définition du couple. Elisabeth Guigou n'était pas d'accord d'ailleurs. En revanche, moi, à l'époque, je n'étais pas encore convaincue, c'était il y a 20 ans, par le mariage de même sexe ou la filiation de même sexe. Et je l'ai écrit. Qu'est-ce qui m'a fait changer ? Vous croyez que c'est la pente glissante ? Ou que c'est le fait que je suis dans un pays et dans une société qui évolue avec des nouveaux possibles, où on voit ce qui se passe, on se laisse changer par la réalité. Donc, c'est le changement. C'est un changement qui est international. Nous sommes dedans, nous en participons. J'ai changé d'avis.
Mais pourquoi ?
Peut-être avez-vous changé d'avis. Mais nous changeons d'avis parce que, simplement, les possibles sont différents. On raisonne différemment. La société, disait Marcel Mauss, hein, elle est dans le temps, elle est dans l'esprit, elle est dans le mouvement, elle est dans le temps. C'est le changement, c'est la substance même de la vie sociale. Donc, nous changeons parce qu'il y a une dynamique très forte. Cette dynamique très forte, c'est celle de l'égalité des sexes. Et on aura peut-être l'occasion d'en redire un mot.
Absolument, Irène Théry. On se retrouve aux environs de 8h20.